En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Dans le cadre du colloque international organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le Collège de France, Paul Pelliot 1878-1945, de l'histoire à la légende, Christina Scherer-Schaub a donné une communication intitulée « Lieux et écrits à découvrir, le Tibet à l'époque de Pelliot ».
Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, dont j'ai l'honneur et le plaisir de présider donc cette séance matinale de la deuxième journée du colloque international consacré à Paul Pelliot. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Christina Scherer-Schaub, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui va nous parler donc de lieux et écrits à découvrir, le Tibet à l'époque de Pelliot.
Merci. Bonjour. Doué d'une intelligence impatiente, Paul Pelliot a légué aux études tibétaines des archives d'une rare importance, ainsi qu'un corpus d'études pour la plupart nés en réponse à des travaux récents. Ces annotations critiques fournissent les compléments d'informations nécessaires et laissent entrevoir son mode de lecture des sources, faisant du détail apparent le point de croisement d'éléments venus d'horizons multiples et d'époques différentes. Sinologue de formation, Pelliot étudie la Chine dans le contexte élargi de ses marges, suivant à cela l'idée qui permit à Sylvain Lévy de décloisonner les études indiennes, de mettre en lumière la diversité des sociétés et la richesse de leurs échanges, que Pelliot étudie à l'aune des documents des géographes et des topographes de l'Antiquité, dont il découvrira quelques pièces parmi les manuscrits de Dunhuang, et par le biais de la phonologie historique et comparative dont nous a entretenu notre collègue Georges-Jean Pinault. Penser la multiplicité comporte cependant une difficulté majeure. L'objet se dérobe sans cesse, déroute et provoque. Le saisit-on, qu'il vous forcera à la dessaisie, réorientant la recherche à votre insu. Il y a de cela dans la démarche de Pelliot, et si l'on veut extraire le Tibet de ses travaux, rien ne convient mieux pour en illustrer le résultat que l'éloge lapidaire de son élève Paul de Miéville. Entraîné par le démon de la recherche philologique, je cite, qui le posséda toujours, pressé aussi par les exigences d'une mémoire écuménique, Pelliot nous a prodigué sa science comme un ébouli de joyaux bruts. Difficile de s'orienter dans la cascade de données relatives au Tibet qui émaille la presque totalité de l'œuvre. Le Tibet se rappelle constamment au savant dans son voyage en Asie centrale, le plus souvent de manière extrêmement topique, découverte d'un feuillet de manuscrit, d'une ligne d'épigraphe, d'un marchand tibétain croisé au passage, mais aussi un fragment d'une épitaphe en l'honneur d'un tibétain haut fonctionnaire, l'un des documents étudiés par Paul de Miéville dans son livre magistral « Le Concile de Lhasa » où « Sources chinoises et tibétaines » œuvrent conjointement pour nous fournir une vue d'ensemble de Dunhuang à une époque où le Tibet administre la région selon le principe qui lui assura le succès pendant un siècle, placer les fonctionnaires chinois, mais aussi khotanais, à de très hauts postes et se réserver le haut commandement et où les monastères bouddhiques jouèrent un rôle déterminant. Parvenu à Dunhuang, le Tibet s'impose à Pelliot sans toutefois susciter son enthousiasme. Je cite « J'ai profité de ce que j'étais aux grottes du Nord pour visiter celles qui sont voisines de la grotte 163, mais plus au Nord, et que je n'avais pas vues. J'y ai trouvé de belles peintures et un graffito shisha de plusieurs lignes. Je suis allé aussi aux lointaines grottes à pic sur le fleuve, en général sans aucun intérêt. On y aperçoit cependant une surabondance d'Om Mani Padme Hum en chinois, mongol, sanskrit et tibétain. Il faudra, malgré le peu de profit qui en résultera probablement, aller les visiter avec des échelles pour ne pas perdre la chance de quelques graffitis intéressants. Pelliot, qui effectue les relevés des inscriptions et cartouches, maîtrise le tracé de l'écriture tibétaine, bien qu'elle ne lui soit pas familière, comme on peut le deviner à une lecture attentive de ses transcriptions. Une réserve demeure aussi au sujet du lot de manuscrits tibétains que Pelliot dit avoir mis de côté. Si l'on suit le journal de lecture de la collection, qui soit dit en passant, est une mine inépuisable et un complément indispensable au catalogue du fonds chinois, on est frappé du fait que les manuscrits tibétains n'y sont jamais mentionnés. Faut-il penser que Pelliot, qui pourtant disposait d'un temps limité, procéda, lorsqu'il parle de son tri, en séparant aussi chinois et tibétains, et en un second temps seulement à la lecture pressée mais détaillée du lot chinois. Le 7 mars 1908, toujours muet quant à l'analyse de détails des manuscrits tibétains, Pelliot ajoute une note au journal. Je cite « Pour le tibétain, il faudra étudier le rôle de ces textes bouddhiques du Kansu, voir s'il n'y a pas eu une école de traducteurs de l'Obsan, il faut corriger l'Otsawa, qui opérait au Kansu, et non à Lhasa, et s'ils n'ont pas traduit du chinois au lieu de traduire toujours sur des originaux hindous. » Et en date du 12 mai 1908, je cite « Ce soir s'est réglé l'achat des livres. J'ai eu enfin tout le chinois et le tibétain que j'avais mis de côté, plus un des chapan tibétains, pas possible d'avoir les autres. » Il est probable que Pelliot ait effectivement mis de côté le tibétain sur le simple critère de l'écriture. Le 19 mai, en effet, il écrit, je cite, « Ce soir, en rangeant les papiers et livres que j'avais mis à part, je retrouve un document qu'à examen attentif, je ne puis reconnaître pour du tibétain. Cela a tout l'air d'un fragment hébraïque. » Dans la lettre expédiée de Dong Huang, le 26 mars 1908, le dernier jour de son travail dans la niche, il fait état de sa surprise lors de la vue de la bibliothèque. Je cite, « D'énormes manuscrits serrés entre deux planchettes par des cordes s'empilaient dans un coin. Ailleurs, des caractères chinois et tibétains sortaient du bout des liasses. » On peut ainsi supposer qu'à l'origine, les manuscrits tibétains étaient mêlés aux autres documents. De surcroît, nous apprenons que les liasses étaient cousues. Pelliot les décrit ainsi, « intactes », telles en un mot qu'elles furent déposées dans la grotte il y a plus de 8 siècles. Le passage qui suit semble indiquer que Pelliot considère les manuscrits tibétains à l'instar des documents ouïghours ou brahmis. Je cite « Mon ignorance simplifiait le choix des documents non chinois. Je distingue bien des lettres de leur alphabet, mais le sens m'échappe. Pour ne rien laisser passer d'intéressant, j'ai tout acquis. » Et Pelliot d'ajouter « En tout cas, ces 11 énormes chapans ne représentent pas tout le tibétain de la grotte, tant s'en faut. Et je suis presque assuré de mieux réussir pour le reste. Ce reste se compose de documents isolés sur haut feuillet, collés et roulés, ou de véritables rouleaux, ou encore de feuillets de large potis, en papier épais non glacé, à la manière tibétaine usuelle, mais qui ont été enroulés pour être cousus dans les liasses. Tout cela dégage un parfum de vieil encens, loin des relents dont on nous a parlé l'autre jour. Et il n'y a guère d'apparence qui s'y trouve rien que de la littérature strictement religieuse. Toutefois, des manuscrits isolés, de courts textes indépendants, offrent plus de chances de nouveauté, sont plutôt susceptibles de notes personnelles, de colophons datés, que la collection régulière et une fois formée du Kanjur. Peut-être nous y verrons surgir une école de l'Otsawa du Kansu, comme il l'a dit dans les carnets aussi. Ce passage est intéressant. La présomption initiale de Pelliot face aux manuscrits tibétains, rien que de la littérature strictement religieuse, détermine la suite. Littérature religieuse, donc bouddhique, donc canonique, sur le modèle de ce qu'il connaît du bouddhisme chinois. Peut-être aussi influencé par les trouvailles des manuscrits sanscrits d'Asie centrale récemment publiés, qui avaient permis à Sylvain Lévy d'émettre l'hypothèse, par la suite vérifiée, de l'existence de collections bouddhiques en sanscrit. On appelait à l'époque canon sanscrit, la question est compliquée. Or, bien que d'ordinaire les descriptions de Pelliot penchent plutôt du côté de Montaigne, ses réflexions sur le soi-disant Kanjur ne manquent pas d'un certain lyrisme. Son enthousiasme est empreint du fantôme du Kanjur, qui hantait déjà Burnouf, et en cela ils ne furent ni les premiers, ni hélas les derniers. En réalité, les chapans insèrent des textes de Prajnaparamita, comme le notera Marcel Laloux, qui ajoutait « Ce ne pouvait être un morceau de la grande collection canonique qui nous est parvenue, puisque sa compilation, sous forme actuelle, est postérieure à l'époque de Dong Huang. Mais le savait-on en 1908 ?» Pelliot revient sur le Kanjur dans la recension critique du catalogue des manuscrits tibétains de la Bibliothèque royale de Berlin, publiée en 1914 par Hermann Beck. Bel exemple de Pelliot bibliographe et émule de Palmyre Cordier. C'est pour lui l'occasion d'une mise au point de l'état des recherches sur la formation du canon des écritures au Tibet, qui se fondait jusqu'alors sur l'analyse des éditions tardives, désormais disponibles dans toute l'Europe, et que les récentes découvertes de manuscrits antérieurs aux collations officielles du canon tibétain pouvaient éclairer d'un jour nouveau. Le savant hongrois Tchema de Keurus, 1784-1842, à juste titre considéré comme le fondateur des études tibétaines, pendant son séjour à Kanan, Okinawa, avait produit une analyse du Kanjur sur laquelle s'appuie aujourd'hui encore une partie des recherches du domaine. Léon Fer traduisit en français cette étude, assortie d'une table qui permettait d'accéder aux éléments indispensables d'une prosopographie, de suivre ainsi les vicissitudes des textes à travers l'histoire des liens qui unirent maître indien et maître tibétain, permettant aussi de localiser les textes ou leurs traductions à une époque où les histoires ecclésiastiques, les tchotchoun, les biographies des maîtres, les namtar, ou les guides de pèlerinage, les lamiques, étaient peu connus en Occident. Pelliot, qui est surtout retenu par les textes traduits du chinois, se réfère constamment au catalogue de Nanzhou et perçoit tout l'intérêt d'une indexation des données trouvées dans les colophons. En 1933, Marcel Laloux publie le répertoire du Tanjour d'après le catalogue de Palmyre Cordier, préfacé par Pelliot. Presque 20 ans ont passé depuis l'époque où Pelliot, soulignant l'importance de l'indexation des catalogues, notait qu'une fois celle-ci achevée, l'on pourrait reprendre l'histoire du Tanjour, encore plus obscure que celle du Kanjour lui-même. Pelliot avait vu juste. L'histoire du Tanjour est une bouteille à encre, et il a fallu presque un siècle avant qu'un projet d'étude systématique de cette collection s'initie à l'Université de Hambourg. Au détour de l'analyse des catalogues, Pelliot est amené à s'interroger sur le rôle joué par les maîtres qui transmirent les textes indiens, dont un bhikshu de Khotan, qui figure au colophon des traductions chinoises et tibétaines du même texte, probablement produit à Bechbalik. De Miéville revient sur cette question dans son concile de Lhasa à propos de Mahayana, l'un des deux protagonistes principaux de la controverse sino-tibétaine qui fait l'objet de l'ouvrage de Miéville. Une dispute, appelée aussi dispute de Samié, qui eut lieu au 8e siècle, au devant du Tsampo et d'une cour très fournie, selon la tradition indienne, qui mettait souvent des représentants d'obédiences différentes en face de la haute autorité. Et ensuite, en l'occurrence, le Tsampo décida pour le bouddhisme indien. L'historicité du récit de la controverse transmise par les histoires ecclésiastiques, comme dit de Miéville, pouvait paraître suspecte. Mais en 1935, c'est toujours de Miéville qui parle, quelques mois avant sa mort, le bouddhisant russe Robert Miller signalait un nouveau document sur la controverse sino-tibétaine. Il avait trouvé dans la bibliothèque du musée asiatique de l'Académie des sciences à Leningrad, Pelliot écrit en 1952, un manuscrit sanskrit sur papier tibétain apporté naguère en Russie de la part du Dalai Lama par le célèbre lama tibétain Dorjev, Dorje le foudre, comme dit Paul de Miéville, chef des bouddhistes russes Buryat et Kalmyk. Ici, il faudrait entrer dans un chapitre qui nous retiendrait longtemps et que je vous prierai de trouver dans la version écrite de ce papier. Je dirais simplement ceci, Pelliot connaît l'existence de Dorjev, il le cite dans les carnets, il en parle. Ce personnage est connu en France depuis 1898, où il assiste au musée Guimet, alors musée des religions, à une cérémonie spéciale. Il était aussi connu sous le nom de Kambolama. Et quelques mois après, il se rendra à la cour des tsars, où il va jouer un rôle très important. Comme vous savez, les tsars de Russie, depuis Catherine II, étaient considérés comme des réincarnations de la Tara Blanche. Donc, Dorjev, utilisant le même procédé, suggérera que le petit tsarevitch Alexis, dont la santé était très fragile, était lui aussi une réincarnation du bouddhisme tibétain. Les savants orientalistes de cette époque ont tous connu Agvan Dorjev, mais c'est un chapitre très complexe dans lequel, malheureusement, je ne peux pas entrer ici. Suivant la règle, on ne fera pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Pelliot, qui de son aveu même, et tout comme son homologue anglais Mark Orelstein, ne connaît pas le tibétain, rapporte en France une collection de documents anciens, comprenant certes des textes religieux, mais également des pièces de chancellerie, des contrats, une chronique ancienne et des annales, dont une partie sera retrouvée, comme il en ira par la suite dans de nombreux cas, parmi le lot de manuscrits de Londres et ou vice-versa. Mais depuis ce qu'on a appris hier, il faudrait peut-être revoir cette question. Ainsi que des pièces très variées qui, chacune à sa manière, ouvrent tout au moins potentiellement sur l'un ou l'autre aspect des études tibétaines telles que nous les connaissons aujourd'hui et a permis la mise en place d'outils méthodologiques pour l'étude des documents anciens tibétains. Alors que Pelliot connaît l'histoire tibétaine, le regard qu'il porte sur les documents tibétains de Dunhuang, de la littérature religieuse, le prive de découvertes qui auraient pu le passionner. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour laquelle, curieusement, ce polyglotte surdoué ne manifeste aucun désir d'apprendre le tibétain. Les études tibétaines, cependant, eurent très tôt leur titre de noblesse en France. En 1738, l'imprimerie royale reçoit de Rome une série de poinçons de l'écriture tibétaine, encore 25. Il doit s'agir d'un jeu semblable à celui des pièces fondues et gravées la même année par Antonio Vantozzi pour le compte de propagande et sur ordre du cardinal Belluga. Ce jeu de poinçons servit à imprimer l'Alphabetum Tangutanum Civetivetanum, publié à Rome en 1773, œuvre de Cassiano da Macerata, au siècle Cesare Belligatti, élève lui-même d'Orazio della Penna, dont le nom qui ne figure point en frontispice apparaît dans la préface. Les frères Étienne et Michel Fourmont, qui travaillaient alors au catalogue de la Bibliothèque du Roi, demandèrent à Domenico Fano un extrait du dictionnaire latin-tibétain, commencé par Giuseppe da Ascoli et Francesco Maria da Tour en 1708 et complété ensuite par Domenico Fano, qu'il apporta à Paris en décembre 1714 ou janvier 15, avant de s'embarquer pour l'Asie à Saint-Malo. Ce dictionnaire, qui fut utilisé aussi par Abel Remusat, Il comporte, en plus de l'alphabet, des règles de prononciation très intéressantes et un colophon lui-même, non pas seulement intéressant, mais touchant pour le regard que les Capucins posent sur le Tibet d'alors. Nous publierons ce document en annexe de cette étude. Un siècle après, l'Asiatic Society du Bengale fait don à la société asiatique d'un exemplaire du canon des écritures bouddhiques en tibétain, ensuite déposé à la Bibliothèque royale. C'est autour de cette collection que Philippe-Édouard Foucault inaugure un cours de tibétain en 1842, qui sera suivi par celui de Léon Fer. Foucault composa une grammaire tibétaine en français et Fer, comme nous avons eu l'occasion de le voir, laissant une table du 15 jours, jointe à sa traduction de l'analyse de Chema de Keurs, publiée dans les annales du musée Guimet en 1881. Ce double héritage fut reçu par Parmi Cordier, auteur, comme on l'a vu, d'une analyse du Kanjur et du Tonjur, toujours d'actualité, et qui marqua quelques-uns des travaux de Paul Pelliot. Cordier nous légua aussi une grammaire du tibétain qui accompagna Jacques Bacot dans ses voyages et dont quelques exemplaires manuscrits se trouvent l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre à la Bibliothèque de la Société asiatique. Cette grammaire eut un retentissement au-delà des frontières françaises. Dans une lettre de 1921, Sylvain Lévy, en réponse à Fyodor Tcherbatskoy, écrit ceci. « Autant que je sache, le cours de tibétain classique de Cordier n'a été qu'autographié en vue de son cours. Je ne crois pas qu'il ait jamais été mis dans le commerce. » Fin de citation. En 1928, Jacques Bacot publie une traduction annotée de la première grammaire tibétaine attribuée à Tonmi Sambhota, le lettré et figure mythique qui, au 7e siècle, selon la tradition historiographique tibétaine, fut envoyé par l'empereur Sonsengampo dans les régions du Sud, ou suivant d'autres sources au Cachemire, pour y apprendre l'écriture. Deux ans plus tard, donc en 1930, Bacot publie une reproduction en fac-similé du dictionnaire tibétain sanskrit de Tseringwangyel, un savant tibétain du XVIIIe siècle. D'une certaine manière, l'on peut dire que le Tibet, à l'époque de Pelliot, jaillit en France par le fait de trois jeunes savants de même âge, au demeurant fort divers de tempérament, fréquentant les mêmes institutions et les mêmes savants, élèves souvent des mêmes maîtres, et qui se trouvent en Chine en des temps très rapprochés. Victor Segalen reprend en 1908 les missions archéologiques en Chine de son maître Chavanne et, sans jamais parvenir au Tibet, nous laisse un poème dense, tel un tableau du meilleur maître, miroir de sa courte vie vouée à l'essentiel. Jacques Bacot, d'une année l'aîné de Paul Pelliot et de Victor Segalen, revient en 1909 dans les marges tibétaines pour entreprendre le voyage vers Pema Keu, l'une des terres mythiques cachées des Tibétains, située dans la boucle du Tsampo, le Brahmapoutra des Indiens, motif indigène qui rejoint en partie le mythe indien de Shambhala, véhiculé par le bouddhisme et qui, hier comme aujourd'hui, fascine les esprits inspirés. Et à l'époque de Pelliot, qui lui consacrera une note philologique, servit la cause politique des Tibétains, comme auprès la cour de Russie et par l'entremise de l'inévitable Kambolama, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. Bacot devient ainsi l'un des premiers découvreurs du Tibet et des Tibétains, partage son voyage avec les pèlerins et apprend le tibétain au pied d'un prêtre Bompo. De retour en France, appelé par son maître Lévy à enseigner le tibétain dans sa propre chaire à l'école pratique des hautes études, il sera 20 ans après le premier directeur d'études de la chaire de philologie tibétaine, occupée aujourd'hui par mon collègue Fernand Meyer. Si Bacot et Pelliot eurent plus d'une occasion de se rencontrer, à l'EPHE, au Collège de France, à la Société asiatique, au musée Guimet, mais surtout, dirais-je, à la Société de géographie. Ce fut cependant la dernière année de la guerre que le hasard amena Jacques Bacot à l'état-major de la mission militaire en Sibérie, conduite par Paul Pelliot. En 1913, Bako avait fait paraître une brève étude sur un manuscrit tibétain rapporté par Pelliot, et que Bako, dans une lecture ethnographique du Tibet, pour ainsi dire surconnotée, prit pour un texte indigène. L'article ne manqua pas d'être critiqué, d'abord par Laufer et ensuite par Pelliot lui-même, les deux du reste n'ayant, en fin de compte, pas vraiment compris l'importance de cette pièce. L'année d'après, cependant, les hasards de l'histoire permirent à Jacques Bako de prendre sa revanche. En août 1914, le Dalaï Lama adresse une lettre au président de la République française. Le sanskrit, comme dit Bako, ne fut alors d'aucune utilité pour traduire le style officiel et honorifique emprunté à la cour de Chine et réservé à l'usage exclusif du Dalaï Lama et des rois de ce monde. La langue parlée était nécessaire. Et c'est ainsi que Bako résume la lettre. Après un cortège d'hyperboles pour s'informer de l'état de santé, le Dalaï offrit au roi de France de lui envoyer 2000 cavaliers tibétains pour la guerre. La lettre se disait accompagnée d'un sachet de poudre d'or en offrande. Elle arriva seule. C'était beaucoup demandé alors que d'aller jusqu'au bout, nous dit Jacques Bako. Dans les mêmes circonstances, le Dalaï Lama oubliait ses griefs envers le British Raj, offrait au souverain britannique 30 000 hommes. L'histoire ne nous dit pas si le sachet de poudre d'or resta au Durbar ou s'il parvint à Londres. Le Tibet, pour paraphraser l'aîné de nos savants, n'était pas sur le chemin de Pelliot. Mais l'approche de Pelliot, forçant à voir l'interaction continuelle de forces hétérogènes à l'intérieur d'un même milieu, reste un modèle pour une histoire à plusieurs mains de l'Asie centrale et du Tibet, suivant en cela la définition de l'espace centra-asiatique des géologues et des géographes du début du siècle dernier, fidèles à la description morphologique des chaînes montagneuses et des plateaux de leurs contreforts, et en dehors de toute considération politique, le Tibet, dans cette configuration, y prend la place nécessaire à remplir les blancs des cartes qui avaient tant fasciné les trois jeunes savants qui nous ont entretenus ce matin. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre Christina Scherer-Schaub dans sa conférence intitulée « Lieux et écrits à découvrir le Tibet à l'époque de Pelliot » dans le cadre du colloque international organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le Collège de France. Le colloque s'intitulait « Paul Pelliot, 1878-1945, de l'histoire à la légende ».